Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 22e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Thomas More et la question « Avons-nous besoin d'utopie ?» Sans doute ne pouvait-on pas trouver de figure plus opposée à Machiavel que nous avons étudiée la semaine dernière. L'Église catholique reconnaît en Thomas More un exemple éminent de vraie vertu dans le monde du pouvoir. Elle en a même fait le saint patron des hommes politiques. C'est que More était un vivant. Il n'a pas craint, comme chancelier d'Angleterre, de ne pas flatter Henri VIII, mais de le rappeler à la vérité quand celui-ci entendait se séparer du pape et s'autoproclamer chef des croyants comme un calife. Bien sûr, à force de ne pas perdre la tête devant le roi a fini par la lui couper. Remarquons-le d'emblée. En affirmant la distinction du spirituel et du temporel, leur non-cumulation en un seul roi et pontife, More ne s'est pas éloigné de Machiavel. Mais il y a autre chose de plus problématique. C'est qu'il est l'auteur de l'utopie, la représentation d'une île imaginaire proposant une république idéale, la plus heureuse de ce monde, où l'on pratique cependant le planning familial et l'euthanasie. Comment interpréter ce texte? Certains y ont vu une critique des institutions anglaises, d'autres un chef-d'œuvre d'ironie, d'autres encore le point de départ des futurs systèmes totalitaires, ceux-ci pouvant toujours se donner bonne conscience en se réclamant du martyr. Quel est donc le rôle de l'utopie en politique? Et quel est le sens de l'utopie de Thomas More? C'est ce sur quoi nous allons essayer de réfléchir en écoutant d'abord un extrait.
Le bonheur, disent les utopiens, n'est pas dans toute espèce de volupté, il est seulement dans les plaisirs bons et honnêtes. C'est vers ces plaisirs que tout, jusqu'à la vertu même, entraîne irrésistiblement notre nature. Ce sont eux qui constituent la félicité. Ils définissent la vertu, vivre selon la nature. Dieu, en créant l'homme, ne lui donna pas d'autre destinée. L'homme qui suit l'impulsion de la nature est celui qui obéit à la voix de la raison, dans ses haines et dans ses appétits. Or, la raison inspire d'abord à tous les mortels l'amour et l'adoration de la majesté divine, à laquelle nous devons et l'être et le bien-être. En second lieu, elle nous enseigne et nous excite à vivre gaiement et sans chagrin, et à procurer les mêmes avantages à nos semblables, qui sont nos frères. En effet, le plus morose et le plus fanatique zélateur de la vertu, l'ennemi le plus haineux du plaisir, en vous proposant d'imiter ses travaux, ses veilles, ses mortifications, vous ordonne aussi de soulager de tout votre pouvoir la misère et les incommodités d'autrui. Ce moraliste sévère comble d'éloges, au nom de l'humanité, l'homme qui console et qui sauve l'homme. Il croit donc que la vertu la plus noble et la plus humaine, en quelque sorte, consiste à adoucir les souffrances du prochain, à l'arracher au désespoir et à la tristesse, à lui rendre les joies de la vie, ou, en d'autres termes, à le faire participer à la volupté. Et pourquoi la nature ne porterait-elle pas chacun de nous à faire à soi le même bien qu'aux autres? Car de deux choses l'une, ou une existence agréable, c'est-à-dire la volupté, est un mal, ou elle est un bien. Si elle est un mal, non seulement l'on ne doit pas aider ses semblables à en jouir, mais encore on doit la leur enlever comme une chose dangereuse et criminelle. Si elle est un bien, l'on peut et l'on doit la procurer à soi comme aux autres. Pourquoi aurions-nous donc moins de compassion pour nous que pour autrui? La nature qui nous inspire la charité pour nos frères ne nous commande pas d'être cruels et sans pitié pour nous-mêmes. Telle est la théorie utopienne touchant la vertu et le plaisir. À moins qu'une révélation descendue du ciel n'inspire à l'homme quelque chose de plus sain, il croit que la raison humaine ne peut rien imaginer de plus vrai. Cette morale est-elle bonne? Est-elle mauvaise? C'est ce que je ne discuterai pas. Je n'en ai pas le temps. Et cela n'est pas nécessaire à mon but. J'ai entrepris une histoire et non une apologie. Ce qui est certain pour moi, c'est que le peuple d'utopie, grâce à ses institutions, est le premier de tous les peuples et qu'il n'existe pas ailleurs de république plus heureuse.
Fabrice Hadjadj, l'homme qui suit l'impulsion de la nature est celui qui obéit à la voix de la raison. Quel est le contexte de ce texte?
On est dans un texte assez emblématique, qu'on pourrait dire, de ce qu'on appelle l'humanisme. Hein, donc, c'est-à-dire un retour à l'idée que l'humain est bon, que la nature humaine est bonne, et justement que vivre selon la nature, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Le seul problème, hein, c'est que là, on a eu une démonstration, on pourrait dire, de philosophie épicurienne, avec une apologie d'une vie joyeuse. Et on sait que Thomas More était quelqu'un de drôle, enfin, qu'il est presque emblématique de l'humour british. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr. Mais de l'autre côté, vraiment une morale du plaisir, avec cette idée que si on veut faire plaisir à notre prochain soi-même en ayant une vie ascétique et triste, ouais, parce qu'il y a cette question toujours, hein, de dissymétrie, on pourrait presque dire, où certains saints veulent souffrir eux-mêmes et faire en sorte que leurs prochains, eux, soient dans une vie joyeuse, heureuse. Jacques Maritta a écrit là-dessus, hein, sur cette dissymétrie. On le voit chez Rose de Lima, quoi, et qu'il y a une propension en Amérique aux souffrances, à des choses vraiment terribles, à des mortifications, mais en même temps, qui voulait soulager son prochain. Et là, il y a cette remarque qui est faite, qui est de dire, mais attendez, si vous soulagez votre prochain, c'est que l'ascèse ou les mortifications, vous allez l'empêcher de les avoir. Peut-être, à ce moment-là, c'est que c'est bon en soi, ce plaisir. Donc, vous devez aussi le choisir pour vous-même. Mais qui parle ici? C'est ça la grande question. On l'a vu à la fin du texte, s'il y a une révélation d'en haut, toute cette morale peut être mise en cause. Mais il y a un autre problème, c'est que le passage sur l'île d'Utopie, c'est le récit d'un voyageur, ça n'est pas Thomas More qui parle. Ça commence par un dialogue de ce Raphaël Itlodé avec Thomas More. C'est le premier discours, c'est le premier livre plutôt. Et le deuxième livre de l'Utopie, c'est l'Utopie comme telle, et ça n'est que ce Raphaël Itlodé qui parle. Or, utlos daios, hein, ça veut dire utlos, ça veut dire baliverne, et daios, ça veut dire expert ou habile. Donc Raphaël, qui porte le nom de l'ange guérisseur, mais en fait en même temps, il est un expert en baliverne. Alors quel est le statut de ce texte? C'est ça, il faut bien voir, hein, le contexte. Et on est peut-être face à un texte qui ressemble à la République de Platon, qui elle-même est un texte ironique de part en part, qui n'est pas du tout un traité d'utopie politique, justement, mais qui se moque de cela. Et puis il y a ce mot, utopie, hein, qui veut dire c'est utopos, hein, et non pas eutopos, c'est-à-dire c'est le non-lieu, ce qui n'existe pas, ce qui est nulle part. Et on nous dit que ce nulle part, il n'existe pas ailleurs de république plus heureuse. Ça s'appelle l'utopie. Oui, mais c'est nulle part qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, nous, on a entendu utopie comme eutopos, c'est-à-dire comme on parle d'euphonie, hein, un beau son, une belle voix, de beaux lieux. Mais c'est pas l'interprétation, c'est pas d'abord ce que dit Thomas More. Mais enfin bon, ce serait bien qu'on parle un peu, Galdric, de Thomas More lui-même, parce que c'est pas pour l'utopie qu'il a été canonisé, c'est pour son martyr.
Ouais, Saint Thomas More, en effet, fils d'un avocat londonien, va devenir lui-même un avocat brillant en passant par Oxford, mais à peine nommé avocat, il va rentrer à la Chartreuse de Londres et il va y rester pendant 4 ans. En discernement, puisqu'il se sent appelé à servir le Seigneur. Mais la dernière année qu'il passe à la Chartreuse, il se rend compte qu'il est peut-être appelé à servir le Seigneur en tant que laïc et qu'il peut servir Dieu en étant dans le monde. Et donc il va quitter la Chartreuse et au tournant du XVIe siècle, il va devenir sous-shérif de Londres, c'est-à-dire en gros un des magistrats les plus importants de la cour royale britannique. Repéré par Henri VIII, qui vient d'être nommé roi d'Angleterre, d'être couronné roi d'Angleterre, il devient l'un de ses plus proches collaborateurs. Secrétaire, interprète, rédacteur de ses discours, diplomate en chef, conseiller, confident, il finira par devenir même son ami, selon les propres termes d'Henri VIII. Parallèlement, More se forge une réputation très importante d'érudit. Il correspond énormément avec Erasme, notamment, avec Jean Bodin. Enfin, voilà, il est extrêmement actif avec toute cette Europe des lettres, cette Europe humaniste de ce début du XVIe siècle. Il combat notamment les théologiens réformés. Il écrit énormément contre Zwingli, contre Luther. Et il écrit aussi une historiographie des tyrans anglais dont Shakespeare s'inspira énormément pour rédiger certaines de ses pièces plutôt historiques. Il rédige aussi, pendant ce temps-là, son utopie, dont nous allons parler dans un instant. Henri VIII le nomme chancelier en 1529, mais c'est l'époque où Henri VIII veut se séparer de Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. En 1531, Henri se sépare de Catherine d'Aragon et épouse Anne Boleyn, et à ce moment-là, Thomas More demande d'être relevé de sa charge de chancelier pour ne pas être obligé d'assister au couronnement d'Anne Boleyn. Mais il reconnaît la légitimité possible du divorce et il reconnaît, dans une lettre adressée à Henri VIII, le couronnement d'Anne Boleyn comme reine d'Angleterre. Cependant, ce premier pas de désobéissance d'Henri VIII vis-à-vis de la cour pontificale, qui lui avait expressément demandé de ne pas proclamer, enfin, qui ne voulait pas reconnaître la nullité de son mariage.
Voilà, le mariage n'était pas nul à ses yeux. Alors, lui disait, c'était la femme de mon frère, parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'est passé comme ça aussi. Et donc, après la mort du frère, il accède au pouvoir. Et elle ne lui avait pas donné d'enfant, Catherine d'Aragon. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est amoureux d'une demoiselle d'honneur, d'une certaine façon, Anne Boleyn. Et il faut comprendre cette psychologie incroyable d'Henri VIII, parce que Henri VIII commence par critiquer la réforme aussi.
Et lui-même écrit.
Voilà, lui-même a écrit contre les auteurs réformés, et le pape va lui décerner le titre de défenseur de la foi. Et donc, c'est aussi ce personnage qui veut passer pour incorruptible. C'est précisément parce qu'il veut passer pour incorruptible qu'il va devenir extrêmement cruel. Parce qu'il y a deux choses. Hein. Soit vous dites, vous êtes comme François Ier. François Ier, il a des maîtresses, il n'a pas emmerdé le monde. Voilà, il a des maîtresses, il sait qu'il est un peu libertin sur les bords. Voilà. Mais Henri VIII, il a une très haute estime de lui-même. Il est le défenseur de la foi. Donc, au lieu de dire il aurait pu coucher, pécher, forniquer avec Anne Boleyn, non, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit juste. Donc, le pape se trompe, donc j'ai raison. Donc, c'est le pécheur qui se dit, on change la loi, et comme ça, on montre que je n'ai pas péché. Et c'est quand même ça, la psychologie d'Henri VIII.
Et au moment du divorce, la cour pontificale n'est pas tout à fait sûre, alors... La position d'Henri VIII aurait pu être réconciliable avec l'Église, on ne sait pas encore. Mais en 1534, Henri VIII lui-même est quelque peu agacé par le refus de Rome et peut-être qu'ils sentent déjà qu'Anne Boleyn ne va pas faire long feu dans son lit. Et donc, il décide de se proclamer chef de l'Église d'Angleterre. Et c'est à ce moment-là que Thomas More refuse de prêter allégeance devant le Parlement, de jurer allégeance au roi, et il va être inculpé pour haute trahison à la Tour de Londres. Très rapidement après, il va être condamné à mort. Alors, le sort qui était réservé à ceux qui étaient accusés de haute trahison était particulièrement terrible. Et donc, Henri VIII, en signe d'amitié, a accepté de commuer sa peine en simple décapitation. Ce à quoi Thomas More a répondu « Je ne souhaite cette faveur à aucun de mes amis ». Et voilà, il a été condamné à mort en 1535. Sur l'obélisque de la place du Kremlin à Moscou, il figure parmi les précurseurs du socialisme. Mais la même année où cet obélisque est érigé, il est proclamé saint par Pie XI et Jean-Paul II le déclarera saint patron des hommes politiques.
Oui, c'est assez beau parce que il aurait pu ne pas se soucier de la position de Thomas More, Henri VIII. Mais il était son ami. Et il voulait absolument lui faire comprendre qu'il avait raison. Là encore, c'est comme avec les pêcheurs, non seulement change la loi, mais veut absolument que, voilà, pour se dire, ben, genre, je suis un homme juste. Il est persuadé, il est le défenseur de la foi. Il faut qu'il reste le défenseur de la foi. Donc, s'il n'est plus en accord avec le pape, c'est le pape qui se trompe. Et si son ami ne le reconnaît plus, il faut que l'ami, par toutes ses forces, que l'ami le reconnaisse. Et alors, quand il l'envoie à la Tour de Londres, quand même, il envoie aussi des personnes pour lui dire, mais écoute, t'as juste à dire. Voilà, c'est bien ce que tu fais. Il attend, il a besoin de ça. Il a besoin de ta reconnaissance. Le roi a besoin de ta reconnaissance. Donc, je ne sais plus quel lord est allé le voir pour lui faire une proposition comme ça. Et il lui a dit, vous savez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je vais mourir aujourd'hui et vous, vous allez mourir demain. et lui laisser entendre que voilà, il vaut mieux mourir dans la vérité qu'aujourd'hui, que mourir demain dans le mensonge et la flatterie. Voilà.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, avons-nous besoin d'utopie ? Justement, Fabrice Adjadj, vous venez de dire que Thomas More ne veut pas vivre dans le mensonge et la flatterie et préfère mourir, mais il écrit ce texte extrêmement étonnant qui est l'Utopie, où on a parfois l'impression qu'il imagine un monde qui vivrait dans le mensonge et la flatterie, même si tout le monde y est parfaitement vertueux.
Alors non, c'est vraiment pas un monde de mensonge et de flatterie, le monde de l'Utopie. C'est un monde où les institutions sont extrêmement organisées, où on vit dans l'abondance, parce que on est sûr d'avoir l'abondance, il n'y a pas de cupidité, d'avarice, etc. Il y a une très grande conscience de la taille des cités dans ce monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop grand nombre à gouverner, donc les cités se gouvernent chacune. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 6000 habitants, je crois. Et puis aussi les familles, alors on peut avoir, mais il ne faut pas qu'il y ait plus de 16 mâles majeurs dans une famille qui aurait été très prolifique. Alors s'il y en a plus, il faut qu'ils passent dans une autre famille, etc. Donc tout est ordonné pour un équilibre, mais d'une part, on voit bien que c'est un monde naturel, un monde qui est régi par une morale plutôt épicurienne, comme on l'a vu. Et c'est un monde... quand quelqu'un est très vieux ou malade, il peut se tuer. Hein, enfin, je veux dire, c'est là où il y a cette... je ne sais pas si c'est du suicide assisté ou de l'euthanasie, comment il faudrait dire, mais enfin... Et donc, je vous ai dit ces aspects de planning familial. Dès qu'une jeune femme est nubile, elle doit se marier. Il faut la marier. On va la marier. On ne sait pas comment. Donc il y a quelque chose, un monde extrêmement organisé, comme sur des rails. Donc s'il y a mensonge, enfin c'est juste que ça n'est qu'une fiction. Ça n'est qu'une utopie précisément. Mais la question qui se pose pour nous, c'est de savoir si il faut absolument abandonner l'utopie. Parce qu'on a dit, voilà, certains ont dit, et c'est vrai, que par ce texte, ils voulaient dire, vous, les Anglais, l'Europe, et c'est un principe qu'on retrouvera chez Montaigne, chez d'autres auteurs, vous avez reçu le christianisme et vous vous comportez moins bien que des hommes qui vivraient dans un monde purement naturel. Vous avez reçu une grâce surnaturelle et vous êtes pire. Et Montaigne, quand il écrira sur les cannibales, il dira, ben voilà, ok, les cannibales, ce qu'ils font, c'est pas très bien, mais est-ce qu'on n'est pas pire, voilà, dans nos crimes, dans notre débauche, dans notre... Donc, il est évident que dans ce texte, il y a l'idée que si on vivait seulement selon la nature, on serait meilleur peut-être que là, alors qu'on a reçu la grâce. Voilà, c'est une humiliation d'une certaine façon. Mais alors justement, ça c'était la question, est-ce que justement le don de la grâce n'implique pas la conscience d'un monde tragique ? Et c'est là où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait dans cette critique. De l'autre côté, peut-être que ça n'était qu'un texte ironique où il fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois il se sert de cette utopie pour critiquer les institutions anglaises, mais en même temps, il montre un truc qui ne peut pas exister, qui est et qui ne tient pas la route et qui est dans l'attente, comme on l'a entendu dans cette phrase, hein, peut-être d'une révélation, puisque c'est pas une apologie de cette utopie, c'est juste une exposition, dit l'auteur, qui en plus est expert en tromperie. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on bavardage. Donc c'est pour ça qu'il y a, c'est très difficile de savoir le statut de ce texte.
Fabrice Hadjadj, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, voilà, Thomas More a occupé pendant très longtemps des fonctions politiques importantes, est-ce qu'il pourrait y avoir une fonction éducative quelconque dans ce texte aussi ?
Oui, bon, je pense que c'est pas quand le papillon se fait de Thomas More le saint patron des hommes politiques, il leur dit pas « vous devez lire l'Utopie ». Et Dieu, vous devez vous inspirer de son action, de son comportement, et à nouveau, il a été canonisé pour le martyr. La question, c'est que l'utopie doit rester une idée régulatrice. Ça ne doit pas être l'utopie qui va être à l'origine de l'idéologie, c'est-à-dire « nous allons faire une société parfaite », voilà. Mais il y a des utopies dans la Bible. Il y a par exemple le Grand Jubilé. Est-ce que le jubilé a eu lieu ? Donc l'idée que tous les 50 ans, chacun revient dans sa propriété. Il a peut-être fait de mauvaises affaires, il a dû se vendre ses terres, il a dû se mettre lui-même comme ouvrier, salarié. Mais non, il faut que tous les 50 ans, chaque famille d'Israël retrouve une maison, une terre, une... voilà. Alors même qu'il y a une croissance démographique, comment est-ce qu'on fait ? Enfin, je veux dire, puisque le territoire ne peut pas s'étendre à l'indéfiniment. Donc, comment ça marche ? Ben, on voit bien que c'est une idée régulatrice. C'est-à-dire de nous dire, attention, quand vous prêtez, celui qui a eu des aléas de fortune, voilà, ne l'écrasez pas. Essayez de faire la justice. Et dans ce monde, d'une certaine façon... où à chaque fois, on a l'impression de labourer la mer, où on fait des réalisations, voilà, des actes, on essaie de bâtir des institutions justes, et puis très vite, elles sont corrompues, etc. On pourrait se décourager. On pourrait dire, ben voilà, c'est fini, on abandonne. Mais non, il faut garder voilà, l'utopie comme idée régulatrice, comme horizon d'espérance, comme, voilà, pour dire, voilà, on n'abandonne pas la partie. Donc c'est une bonne manière de penser l'utopie. Mais ça n'est pas justement l'idée de réaliser une société parfaite à partir d'une théorie de ce qu'est le bien des hommes.
Fabrice Hadjadj, Erasme a logé pendant 2 ans chez Thomas More et il disait, exactement comme la première phrase de notre texte, qu'il acceptait tous les plaisirs naturels et simples. Et donc, c'était pas un bon vivant, au sens où il n'allait jamais dans l'excès, il ne cherchait pas l'abondance, mais ce qui était bon, il acceptait de le reconnaître comme bon et de l'accueillir. Oui. Et il a vécu dans une chartreuse où il essayait de s'imposer une discipline et il s'est rendu compte que ce n'était pas là qu'il allait vraiment servir le Christ. Est-ce qu'on pourrait voir aussi quelque chose de sa propre vie ici qui se...
Oui, humour, c'est pas simplement la drôlerie ou la plaisanterie, c'est la bonne humeur. Et Thomas More est le saint patron de la bonne humeur. On pourrait dire à un autre titre Philippe Néry d'une autre manière, mais Thomas More de manière très très nette. Et quand on voit sa vie, quand on voit les bons mots qu'on a pu citer, mais c'est pas seulement ça, c'est que effectivement c'est un chrétien solaire. Alors même qu'il va écrire un texte qui s'intitule « La tristesse du Christ », ça ne veut pas dire qu'il est complètement ignorant de cette dimension-là, et en prison, il va souffrir. Mais il dit, voilà, les plaisirs de la vie, nous devons les accueillir. Et surtout quand on est laïque. Il y a quelque chose qui est... Et donc, il va y avoir un lien très fort, par exemple, entre quelqu'un comme Thomas More et un auteur comme Chesterton. Qui va aussi avoir cette même manière de concevoir le catholicisme comme une religion absolument positive, une religion où ce serait, et on l'a entendu ici, mépriser Dieu que de refuser les plaisirs qu'il nous donne. C.S. Lewis, dans le même ligne, dans Tactique du diable, le démon supérieur va dire « attention », avec le plaisir à son démon inférieur, parce que le plaisir vient de Dieu. Donc on va avoir cette tradition. Et on trouvera un Claudel, par exemple, aussi, qui sera dans cette logique extrêmement solaire. Mais il n'y a pas que ça dans le christianisme. C'est ça qui est très intéressant. C'est que on a des Claudel et on a des Bernanos qui sont plus sombres. Un Chateaubriand est extrêmement mélancolique et l'idée des plaisirs de la vie, ce n'est pas son truc. Donc il n'y a pas qu'un seul tempérament chrétien, mais ce qui est certain, c'est que celui de Thomas More, est, voilà, c'est ça ce qu'on voit. Et c'est ça ce qui nous a donné plus que l'utopie, c'est-à-dire une vraie joie d'être dans ce monde tout en n'étant pas de ce monde.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Thomas More, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30 et les samedis à 10h30. Et bien sûr, en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.